Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme. Je suis heureux de vous retrouver pour un podcast sur la responsabilité médicale. J'imagine que toutefois cette semaine était un peu difficile pour vous puisque elle a été prise, si je puis dire, sur les vacances et que l'université vous a sans coup férir prévenu de la nécessité de travailler une semaine de plus et par conséquent de vous reposer une semaine de moins. Je l'ai appris de la même manière que vous et j'imagine que cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile et ça se rajoute aux difficultés d'un confinement qui dure. J'ai d'ailleurs lu un sondage très récemment sur le fait que le moral des 18-30 ans était en berne. Et ce sondage laisse entendre que 47%, pardon, des personnes interrogées estiment que leur morale a baissé depuis le début du confinement. Je ne sais pas ce que ça signifie pour les 53% restants, mais en toute hypothèse, je ne doute pas que nombre d'entre vous, beaucoup, subissent la situation et commencent à la trouver longue. Alors, je me suis demandé comment essayer de vous remettre un petit peu le moral, alors même que nous allons fêter Pâques, que c'est le week-end de Pâques et que la chasse aux œufs va nécessairement être un petit peu chamboulée, voire ne pas avoir lieu. Il faut sans doute vous remettre dans le cocon de l'enfance, le bien-être de l'enfance. Ces moments privilégiés où les soucis étaient au fond limités. Et j'ai pensé que vous êtes une génération qui a connu quoi? Oui, c'est elle, vous l'avez reconnue, Dora l'exploratrice, celle qui est à l'origine du sacrifice d'une génération entière, mais je sais qu'elle va vous faire du bien quand même, alors je vais lui laisser un tout petit peu la parole.
Et moi, c'est Babouche. C'est Pâques aujourd'hui. Et j'adore fêter Pâques parce que toute ma famille se réunit et je porte une jolie robe et un chapeau assorti.
Moi, j'ai mis des oreilles de lapin, regarde.
Que tu aimes les lapins?
Bien sûr que j'aime les lapins, voyons.
Nous aussi, on les adore! Babouche et moi, nous attendons la venue du lapin pour Pâques. Il nous rend visite tous les ans le dimanche de Pâques. C'est notre ami Hip Hop Bunny. Il apporte toujours un panier rempli de surprises pour la chasse aux œufs. Oui! Tape tes mains, dis oura!
Oua!
Car Hip Hop Bunny sera bientôt là. On fera la chasse, chasse, chasse aux œufs.
Ça va mieux là? Vous vous sentez bien? Puis vous connaissez la suite de toute manière. Shipper va arriver, Shipper va essayer de voler le panier avec les œufs, etc., etc.
Ton panier s'est envolé!
Oh, Shipper a shippé le panier de Hip Hop Bunny.
Oui, viens vite, come on!
Maintenant, si on se parle sérieusement, comment est-il concevable que des personnes qui ont entendu ça durant leur enfance puissent être parfaitement équilibrées et puissent vivre les choses normalement? Essayons tout de même, vous le méritez, de revenir à des choses sérieuses et donc, évidemment, au droit. Vous aurez toujours la possibilité de réécouter, si ça ne va pas bien, le début de ce podcast et de vous remettre dans cette position de l'enfance chérie où vous écoutiez Dora l'exploratrice. Chapitre 6, donc, la responsabilité médicale. La responsabilité médicale, elle est désormais régie pour l'essentiel par une loi spéciale sur les accidents médicaux. La loi du 4 mars 2002, dite loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi, comme en matière d'accidents de la circulation ou de produits défectueux, Elles mettent en cause la distinction des responsabilités délictuelles et contractuelles, car elles se présentent comme un régime d'unification de ces responsabilités. Elles s'appliquent aussi bien à la responsabilité délictuelle et contractuelle, mais elle va encore plus loin. Elle unifie aussi la responsabilité civile et la responsabilité administrative. Pourquoi je souligne cette unification de la responsabilité civile et de la responsabilité administrative? C'est tout simplement parce que, en matière médicale, les accidents peuvent aussi bien relever d'une activité privée, par exemple le dommage qui serait subi dans une clinique, qui serait subi dans le cabinet d'un médecin, mais ils peuvent également relever d'erreurs de diagnostic ou plus généralement de toute difficulté qui surviendrait dans des hôpitaux publics. Et en ce cas, la responsabilité médicale renvoie à la responsabilité de la puissance publique. Mes deux premières remarques sont donc les suivantes. Première remarque, principalement, la responsabilité médicale relève d'une loi du 4 mars 2002, je dis bien principalement, et vous verrez un petit peu pourquoi je souligne qu'elle n'est pas exclusive. Et puis, ma deuxième remarque, c'est de dire que cette loi du 4 mars 2002 traverse non seulement la distinction responsabilité contractuelle et délictuelle, et elle rejoint là aussi les accidents de la circulation qu'on a déjà envisagés, ou encore les produits défectueux, mais elle va plus loin car elle unifie les règles de la responsabilité civile et de la responsabilité administrative. Il faut d'ailleurs s'en féliciter parce que il serait assez peu compréhensible et d'ailleurs acceptable que des solutions distinctes, hétérogènes, dissemblables dépendent de la juridiction compétente et que on ait des contentieux qui débouchent sur certaines solutions devant la juridiction civile et sur d'autres solutions devant la juridiction administrative. J'ajouterais que une même hétérogénéité pourrait résulter des contentieux liés à la vaccination. Dans certains cas, la vaccination, elle est facultative et elle va relever de la compétence de la juridiction civile. Dans d'autres cas, la vaccination est obligatoire, c'est le cas en droit du travail, et elle va relever de la juridiction administrative. Et on comprend aisément que là aussi, il serait anormal en matière de vaccination qu'on ait des décisions différentes selon la juridiction compétente. Bref, la matière médicale transcende la distinction du droit administratif et du droit civil. Elle transcende la distinction entre la compétence de la juridiction administrative et celle de la juridiction civile. Et il est heureux que le droit essaye d'harmoniser les solutions rendues dans les différentes hypothèses qui relèvent de problématiques au fond communes et comparables. Mais on n'est pas arrivé là en un jour. Cette loi du 4 mars 2002 a été précédée de nombreuses décisions de jurisprudence qui ont marqué une forte évolution au cours du XXe siècle de ce qui pourrait relever d'un droit médical ou du droit de la responsabilité applicable à la matière médicale. Et je vais essayer dans une première section de retracer un mouvement très fort qui est celui de la spécialisation de la responsabilité médicale pour déboucher justement à cette loi du 4 mars 2002. Mais il y a un deuxième mouvement que je voudrais montrer ou un deuxième intérêt du droit de la responsabilité médicale que je voudrais illustrer. Je voudrais montrer au fond, plutôt que de rentrer dans le détail de toutes les décisions qui font le droit de la responsabilité médicale, je voudrais montrer comment cette responsabilité médicale est devenue un laboratoire pour la responsabilité civile en général. La responsabilité médicale, laboratoire de la responsabilité civile, ça sera ma section 2. Section 1, donc, si vous voulez bien, le mouvement de spécialisation de la responsabilité médicale. Je vais distinguer deux temps dans ce mouvement de spécialisation de la responsabilité médicale, avant la loi du 4 mars 2002 et puis à partir de la loi du 4 mars 2002. Avant la loi du 4 mars 2002, il y a deux grandes évolutions qui traversent le XXe siècle. Le premier mouvement, c'est-à-dire mon grand A, puisque mon paragraphe 1, c'est avant la loi du 4 mars 2002, le premier mouvement, c'est un mouvement de contractualisation de la responsabilité médicale. Et je montrerai ensuite en grand B qu'il y a eu un mouvement de diversification. Grand A, un mouvement de contractualisation. Et je vais vous faire noter deux arrêts très importants qui vont vous permettre de comprendre comment les choses se sont mises en place. Le premier arrêt, c'est un arrêt du 18 juin 1935 de la Cour de cassation, Chambre des requêtes. Cet arrêt du 18 juin 1935, c'est le premier arrêt qui a jugé qu'il y avait responsabilité du médecin dans l'exercice de son art, de sa pratique de la médecine. Et en l'espèce, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Et vous comprenez donc, avec ce que je viens de dire, qu'à l'origine, de la responsabilité médicale, le fondement est délictuel, il n'est pas contractuel. À l'origine, la responsabilité médicale n'était donc pas contractuelle. Le deuxième arrêt, c'est celui qui vient changer le fondement de cette responsabilité médicale, c'est l'arrêt Mercier du 20 mai 1936. Il est impératif que vous connaissiez cet arrêt, qui est un grand arrêt de la jurisprudence civile. L'arrêt Mercier a jugé que la responsabilité médicale était une responsabilité contractuelle, et il a jugé qu'il y avait un contrat entre le médecin et son patient qui comportait une obligation de soins à la charge du médecin, une obligation de soins qui était une obligation de moyens. Vous savez déjà tout ça, vous souvenez-vous de votre premier semestre, une obligation de moyens parce que le médecin doit délivrer des soins consciencieux conformes aux données acquises de la science. Il n'a pas une obligation de résultat, il n'est pas responsable dès lors qu'il n'a pas réussi à guérir. En revanche, comme il a une obligation de moyens, il doit faire tout son possible pour soigner son patient conformément aux données acquises de la science, et c'est ce que juge l'arrêt Mercier du 20 mai 1936. À partir de cet arrêt Mercier, il y a une contractualisation de la relation médecin-patient qui s'est donc opérée. Mais il faut ajouter un deuxième mouvement, qui est un mouvement de diversification. Grand B, si vous le voulez bien, un mouvement de diversification. Quand je parle de diversification, je veux dire que le cœur de la relation patient-médecin, médecin-patient, c'est l'obligation de soins. Mais il n'y a pas que cette obligation de soins, et la jurisprudence va progressivement élargir, complexifier la relation contractuelle entre le médecin et le patient. Aux deux arrêts que j'ai cités tout à l'heure, du 18 juin 1935 et du 20 mai 1936, il faut ajouter un arrêt Tessier, T-E-Y-2-S-I-E-R, du 28 janvier 1942. Cet arrêt Tessier, il proclame, il repose sur le respect de la personne humaine, déjà en son temps, le respect de la personne humaine. Et il juge que le respect de la personne humaine impose aux praticiens d'obtenir le consentement éclairé du patient avant de réaliser une opération. Et si vous reprenez la formule que je viens d'employer, quand j'ai dit il impose aux praticiens d'obtenir le consentement éclairé du patient. Éclairé, ça veut dire que le patient doit être suffisamment informé pour pouvoir s'engager dans la relation contractuelle avec le médecin et pour pouvoir accepter l'opération que préconise le médecin. Et voilà pourquoi, à partir de cet arrêt, la relation médecin-patient va s'enrichir. Il n'y a pas seulement une obligation de soins, il y a évidemment une obligation de soins, qui est une obligation de moyens, mais il y a aussi une obligation d'information, obligation d'information qui va gagner en importance au cours des années 80 et 90, jusqu'à s'étendre à une obligation d'information sur les risques, même exceptionnels, d'un traitement ou d'une opération. J'y reviendrai. Et je songe d'ailleurs aussi au fait que, dans le chapitre précédent, concernant les produits défectueux, vous vous souvenez sans doute que quand j'ai parlé du défaut du produit, j'ai caractérisé deux types de défauts, le défaut extrinsèque et le défaut intrinsèque. Vous vous souvenez ? Je vois que vous opinez du chef, je vois que vous vous souvenez. Et vous vous souvenez alors que le défaut extrinsèque du produit, dès lors que le produit en cause, c'est un produit de santé, c'est un défaut sur la notice du médicament. Et vous voyez que là aussi, c'est l'information qui participe très fortement de la protection du patient. Mais je parlais, quand je parlais du défaut du produit, je parlais de l'information que délivre le laboratoire. Et ici, je parle de l'information que délivre le médecin. En toute hypothèse, sachez que l'information est essentielle à la protection du patient et au fait qu'il puisse s'engager en connaissance de cause. J'ajouterais que non seulement il y a une obligation de soins, non seulement il y a une obligation d'information, mais la responsabilité médicale va encore se diversifier d'autres manières à partir de solutions dérogatoires élaborées par la jurisprudence. J'en donne un ou deux exemples. Premier exemple, la responsabilité pour les appareils ou les prothèses médicales. Vous le savez, je l'ai dit à la fin du premier semestre. Pour les appareils ou les prothèses médicales, le médecin est tenu d'une obligation de résultat, qui s'applique aussi d'ailleurs à la fourniture de produits sanguins. Et donc, ça vient ajouter une obligation particulière et en l'occurrence renforcée à celle qui existe déjà et qui est le cœur de la relation, c'est-à-dire l'obligation de soins. Et puis, autre illustration, l'obligation qui est relative au développement d'infections nosocomiales. Vous savez qu'on parle d'infections nosocomiales pour les infections qui sont contractées dans un établissement de soins. Le médecin est tenu ici, là encore, d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. L'arrêt de principe, c'est première chambre civile, 29 juin 1999. Vous voyez donc qu'il y a un fort mouvement de diversification en matière de responsabilité médicale. Et si je résume ce que je viens de dire, je dirais que le cœur de la relation médicale et donc de la relation contractuelle, c'est l'obligation de soins. mais que cette obligation de soins s'est enrichie ou a été accompagnée par d'autres obligations et une complexification de la relation contractuelle. Et j'ai visé l'obligation d'information, j'ai visé l'obligation sur les appareils et les prothèses, j'ai visé l'obligation qui résulte ou qui protège dans l'hypothèse d'infection nosocomiale. Paragraphe 2, la loi du 4 mars 2002. Cette loi du 4 mars 2002, elle est évidemment essentielle. Vous en trouverez la plupart des dispositions de façon un peu éparse dans le code civil sous un certain nombre d'arrêts. Je vous invite donc à regarder la table chronologique qui figure à la fin de votre code civil. Est-ce que vous avez bien votre code civil ? Alors ouvrez-le à la table chronologique et vous allez voir qu'à la loi du 4 mars 2002, on vous renvoie à plusieurs endroits de votre code. Mais vous verrez assez vite que cette loi du 4 mars 2002 atteste de plusieurs objectifs de la part du législateur. Premier objectif, le législateur a entendu autant que possible réunifier les règles de la responsabilité médicale. Il a entendu réunifier autant que possible les règles de la responsabilité médicale pour éviter cette segmentation droit public, droit privé dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour éviter cette segmentation droit des tiers, droit des victimes, qui pourrait également venir créer des dissemblances, une hétérogénéité en la matière. Et puis, deuxième grand objectif du législateur, le législateur de 2002 a eu pour intention de prévoir un système de solidarité nationale permettant l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. C'est un point très important, un point très important qui est la volonté du législateur de rattacher la matière à la solidarité nationale. La solidarité nationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire en sorte que l'État puisse prendre en charge les victimes d'accidents médicaux toutes les fois qu'il y a un aléa thérapeutique à l'origine de l'accident. Mais maintenant, au-delà de ces objectifs, je vais souligner quatre points qui vont vous permettre de comprendre un petit peu comment la loi du 4 mars 2002 opère et procède en matière de responsabilité médicale. Grand A, l'obligation d'information. Donc j'y reviens à cette obligation d'information, J'ai dit tout à l'heure qu'elle était apparue avec un arrêt de 1942, l'arrêt Tessier. J'ai dit également que cette obligation d'information s'était développée à la faveur d'une jurisprudence extrêmement riche à partir de la fin des années 80 et 90. J'ajoute que par un arrêt du 9 octobre 2001, la Cour de cassation va juger que le devoir d'information, qui est un préalable nécessaire au consentement, trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de dignité de la personne humaine. Et donc, la Cour de cassation va rattacher à une norme constitutionnelle, à un principe constitutionnel, celui de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le devoir d'information qui pèse sur le médecin, principe de dignité de la personne humaine, qui est consacré dans le préambule de la Constitution de 1946, lui-même rattaché au préambule de la Constitution de 1958. Depuis la loi du 4 mars 2002, l'obligation d'information dispose d'un rattachement à la loi, d'une consécration légale. Et j'allais dire pas d'une simple consécration légale, car il y a au moins deux dispositions à connaître. La première, c'est celle de l'article 16-3, alinéa 2 du Code civil. 16-3, alinéa 2 du Code civil, issu d'une loi du 6 août 2004. Je vais vous citer cet article. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Et donc, l'article 16-3, alinéa 2, pose la nécessité du consentement de l'intéressé comme principe. Évidemment, ce principe doit subir des exceptions toutes les fois qu'un patient n'est pas dans l'état de manifester sa volonté. S'il est en état d'inconscience, il va de soi qu'il doit pouvoir être opéré sans qu'on exige de lui l'expression positive de son consentement. Et puis, à cette disposition de l'article 16-3, il y a des dispositions du Code de la santé publique issues de la loi du 4 mars 2002 que vous trouverez dans le Code civil. Et je vise ici les articles L1111-1 à 1111-9 du Code de la santé publique issus de la loi du 4 mars 2002 et qui figurent dans un chapitre qui porte justement sur l'information des usagers du système de santé et l'expression de leur volonté. Et je crois qu'il faut mesurer l'importance de ces dispositions, et pour la mesurer, cette importance, permettez-moi de vous citer l'article 1111-2 du Code de la santé publique. Cet article 1111-2 dispose « Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé. » Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. On ne parle pas ici de l'information sur les soins qui vont être prodigués, qui existent bien. On ne parle pas non plus de l'information sur l'intervention chirurgicale qui pourrait être pratiquée. On parle de l'information sur l'état de santé même du patient. Et donc, cette obligation, si je résume tout ça, elle porte sur le diagnostic, elle porte sur les traitements, elle porte sur les soins envisagés, elle porte sur les risques attachés aux soins ou aux traitements ou aux opérations envisagées. Et elle porte en préalable sur l'état de santé du patient. Et s'agissant de l'information sur les risques, la jurisprudence impose une information non seulement sur les risques fréquents ou graves, mais également sur les risques exceptionnels. La seule exclusion, j'allais dire, la seule limitation à cette obligation d'information, c'est qu'un médecin n'a pas à informer son patient de risques simplement de risques douteux, de risques qui ne sont pas du tout établis et de risques qui sont éventuellement colportés ici ou là, mais que la science médicale ne reconnaît pas. Je prends un exemple très important, tiré d'un arrêt de la première chambre civile du 23 janvier 2014. Il s'agit d'une hypothèse dans laquelle un patient reproche à un médecin de ne pas l'avoir informé sur les risques de sclérose en plaques qui seraient liés à la vaccination contre l'hépatite B. Réponse de la Cour de cassation. Réponse de la Cour de cassation, le médecin n'a pas à informer son patient sur les risques de sclérose en plaques liés au vaccin contre l'hépatite B, car ces risques ne sont pas avérées scientifiquement. Ce droit à l'information, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. De sorte qu'une personne a le droit d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic si elle le désire. Elle peut refuser l'information si elle estime préférable, j'allais dire, pour elle-même, psychologiquement, d'être maintenue dans un certain état d'ignorance. Toutefois, notez que elle ne pourra pas refuser l'information lorsque des tiers se trouvent exposés à un risque en raison de son état de santé, un risque qui sera donc un risque de transmission. Exemple, une personne atteinte du sida ne peut pas demander au médecin qu'il ne lui dise pas qu'il est atteint du sida, tout simplement parce que son comportement peut être dangereux pour des tiers. C'est la même chose pour un certain nombre de maladies contagieuses. Cette obligation d'information n'a donc pas seulement un fondement jurisprudentiel, elle a désormais un fondement légal et un fondement constitutionnel. Elle est évidemment fondamentale. La Cour de cassation aujourd'hui, lorsqu'elle statue en matière d'obligation d'information, elle vise les articles 16-3 alinéa 2 et elle vise aussi l'article 1382 du Code civil devenu 1240. Et vous comprenez donc que aujourd'hui, dans la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, il s'est opéré une décontractualisation de l'obligation d'information et un rattachement à la loi et à la responsabilité délictuelle. Ouais, j'en vois certains d'entre vous qui froncent les sourcils. Je comprends qu'ils ne comprennent pas trop ce que je viens de dire, et donc j'ai été trop rapide. Je vais réexpliquer, c'est un mouvement important, et je serais heureux que vous le compreniez bien. Au fond, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, l'obligation d'information est venue enrichir, nourrir le rapport contractuel entre le médecin et le patient. J'ai dit, dans ce rapport contractuel entre le médecin et... Non, ne notez pas ce que je suis en train de dire, c'est une explication. Dans le rapport contractuel entre le médecin et le patient, on a d'abord et principalement une obligation de soins. Et puis j'ai dit, la jurisprudence est venue ajouter une obligation d'information. J'ai parlé de l'arrêté scier et j'ai parlé du mouvement d'enrichissement des années 80 et 90, très important, qui est venu réellement nourrir la relation médecin-patient à partir de la consécration d'une obligation d'information, même sur les risques exceptionnels. Cette obligation d'information consacrée par la jurisprudence, développée dans les années 80-90, elle est rattachée au contrat entre le médecin et le patient. Contrat que la Cour de cassation a considéré exister dans la relation médecin-patient à partir de l'arrêt Mercier de 1936. Et donc, si je résume ce que je viens de dire, depuis 1936, lorsque l'on va voir un médecin et que l'on se fait soigner par un médecin ou lorsqu'on se fait opérer par un chirurgien, la jurisprudence dit qu'il y a une relation contractuelle qui s'est nouée. Et la jurisprudence a considéré que dans cette relation contractuelle, il y avait une obligation d'information qu'elle a enrichie progressivement. Mais j'ai dit que dans un deuxième temps, à partir de la loi du 4 mars 2002, à partir également de la loi de 2004, la Cour de cassation a considéré que l'obligation d'information ne trouvait plus sa source dans le contrat, mais dans la loi, puisque c'est la loi qui impose cette obligation d'information désormais. Et elle cite les articles 16 et 16.3, linéa 2 du Code civil. Et elle cite désormais également l'article 1382 devenu 1240. Et voilà pourquoi j'ai dit, alors qu'on avait contractualisé l'obligation d'information, on l'a désormais décontractualisée pour la rattacher à la loi. Grand B, l'obligation de soins. La loi du 4 mars 2002 régit désormais la question aussi du soin à travers un article du Code de la santé publique qui est l'article 1142-1 grand 1. 1142-1 grand 1. Et c'est cet article dispose que les professionnels de santé sont responsables de leurs actes en cas de faute, évidemment, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, où là, on aura des règles particulières. La loi du 4 mars 2002, à travers cet article 1142-1 grand 1, rattache la responsabilité à la faute. De ce point de vue-là, c'est un prolongement légal de la jurisprudence qui avait été initiée par l'arrêt Mercier et l'obligation de soins, puisque l'obligation de soins n'imposait qu'une obligation de moyens. Ce régime est uniforme, je l'ai dit et redit, et notamment il traverse les distinctions publiques-privées, contractuel, délictuel, je sais, je radote, mais c'est bien que vous ayez en vous, déjà, sans même l'apprendre, cette idée très forte et très importante que la loi du 4 mars 2002 se joue des distinctions publiques-privées, contractuelles, délictuelles. Et elle pose également un régime uniforme de prescription pour la responsabilité des professionnels de santé. La responsabilité des professionnels de santé et les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et pour leurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, la prescription de l'action, c'est 10 ans à compter de la consolidation du dommage. 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Cette obligation de soins, elle emporte l'obligation de délivrer des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science. Mais la Cour de cassation a ajouté dans un arrêt du 5 mars 2015 de la première chambre civile qu'elle comporte pour le médecin le devoir de se renseigner lui-même avec précision sur l'état de santé de son patient afin d'évaluer les risques encourus par lui, le patient, et de lui permettre de donner un consentement éclairé. La Cour de cassation a donc consacré un devoir du médecin de se renseigner sur l'état de santé de son patient, devoir qu'il rattache à l'obligation de soins. Grand C, le défaut du produit de santé. Je l'ai dit un peu vite il y a 3 minutes. L'article 1142-1 grand 1 du Code de la santé publique exclut de son champ d'application le cas où leur responsabilité, celle des professionnels de santé, est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé. Il faut donc que vous notiez en gros que le défaut du produit de santé ne relève pas de la loi du 4 mars 2002. Il relève de la responsabilité du fait des produits défectueux que nous avons envisagé la semaine dernière, 1245 et suivant, et les vaccins à ce titre, continuent de relever de la loi sur les produits défectueux. Grand D, l'accident médical. Il faut que vous notiez que, à l'occasion de la loi du 4 mars 2002, le législateur s'est efforcé de régler un problème récurrent, celui de l'aléa thérapeutique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi du 4 mars 2002 permet la prise en charge au titre de la solidarité nationale des dommages qui seraient subis par un patient à l'occasion d'un traitement médical, mais qui ne pourrait pas être imputé à une faute du praticien ou même à un quelconque dysfonctionnement précisément identifiable. Voilà pourquoi on règle ici la question qu'on a intitulée celle de l'aléa thérapeutique, c'est-à-dire de ce qui peut survenir en cours de traitement, en cours d'opération, sans qu'il n'y ait jamais de faute. Et on a dit, mais la responsabilité du médecin, c'est une responsabilité pour faute. On ne pourrait pas admettre que le médecin soit tenu alors qu'il n'a commis aucune faute. On ne pourrait pas admettre de consacrer une obligation de résultat. Donc, d'un côté, c'était mon grand B sur l'obligation de soins. Il y a une obligation de soigner qui n'est qu'une obligation de moyens. Mais de l'autre, on sait que un certain nombre de traitements comportent des risques, comportent des aléas. Et ce que la loi du 4 mars 2002 a voulu faire, c'est faire en sorte que les patients puissent être indemnisés des conséquences préjudiciables d'un aléa thérapeutique. C'est un choix de politique juridique. La loi a décidé de ne pas laisser sans réparation le patient, mais au contraire de lui permettre d'obtenir une indemnisation sous certaines conditions au titre de la solidarité nationale. Et cette indemnisation, elle relève d'un office qui s'appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, office spécialement créé à cet effet et qui a vocation à indemniser les victimes et qui est donc alimenté par l'État. Je voudrais continuer cette explicitation de la responsabilité médicale par une section 2 qui vous permette de continuer à saisir les mouvements qui sont à l'œuvre. Section 2, la responsabilité médicale, laboratoire de la responsabilité civile. Laboratoire de la responsabilité civile parce que vous allez voir comment, au fond, les mouvements de cette responsabilité médicale sont instructifs et nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe en responsabilité civile. Vous avez compris que à chaque période de l'histoire de la responsabilité, depuis 1804, il y a des causes d'accidents qui font évoluer le droit de la responsabilité. J'ai déjà dit que à la fin du 19e siècle, ce sont les accidents du travail liés à l'industrialisation et à la révolution industrielle qui vont être moteurs de l'évolution de la responsabilité civile. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'ils vont permettre à Saleil et Josserand, ou conduire Saleil et Josserand, à proposer une nouvelle lecture de l'article 1384, alinéa 1er, et à proposer un nouveau fondement à la responsabilité civile, celui de la responsabilité pour risque. Vous savez aussi qu'au cours du XXe siècle, là aussi, les accidents de la circulation, cette fois, vont conduire à une évolution des idées, à un passage de la théorie du risque à la théorie de la garantie. Et vous pensez cette fois à Stark et à Tunk, et vous pensez bien sûr à la loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Au début du XXIe siècle, si je continue à essayer de rattacher les accidents à la matière même de la responsabilité juridique et en l'espèce de la responsabilité civile, je vais dire qu'au début du XXIe siècle, la responsabilité civile a évolué et évolue toujours sous l'influence de deux considérations. D'abord, les préoccupations écologiques et environnementales. Les préoccupations écologiques et environnementales, elles vont conduire à promouvoir un nouveau fondement, c'est le principe de précaution. Une nouvelle manière de voir la responsabilité à travers l'idée de précaution et donc d'anticipation. Et puis, les deuxièmes séries d'accidents, ce sont les accidents médicaux qui vont là aussi conduire à une évolution de la responsabilité civile. Je crains avec l'actualité qu'il faille élargir ces accidents médicaux et penser à tous les accidents qui atteignent la santé humaine. Et aujourd'hui, comment ne pas songer évidemment au virus et à l'influence que la crise sanitaire actuelle et que le Covid-19 vont avoir sur l'évolution de notre droit. En toute hypothèse, ce que je veux que vous compreniez, c'est que les notions et les concepts évoluent en fonction des besoins que génèrent les nouveaux accidents. Je vais m'intéresser aux causes du bouleversement et j'envisagerai ensuite les manifestations du bouleversement. Les causes. Je pense qu'il y a deux séries de causes très importantes. La première, et sans vouloir trop philosopher, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Il y a quand même des attentes renforcées, des attentes très fortes dans la médecine, sous l'illusion d'une médecine qui serait toute puissante. On est dans la croyance que la médecine, parce qu'elle progresse, devrait de plus en plus soigner et guérir sans aléas. Et contrairement à ce que pourrait laisser entendre la loi de 2002, ou plus exactement, à mon sens, elle le laisse entendre, mais contrairement à ce qu'une lecture trop rapide pourrait laisser penser, l'aléa thérapeutique est de moins en moins toléré. Et c'est précisément parce qu'il est de moins en moins toléré qu'on va le prendre en charge et qu'on va considérer que c'est à la collectivité publique, à la solidarité nationale, qu'il revient de prendre en charge ces accidents thérapeutiques liés à un aléa, liés à un risque et non pas rattachables à une faute. Et je pense que aujourd'hui, la crise actuelle montre bien les limites de cette foi et de cette croyance dans une médecine toute puissante, mais elle montre aussi combien nous avons cru que la médecine allait pouvoir combattre tous les maux. Et ça a généré une forme de droit à la santé, une forme de droit à la guérison, ce que les philosophes aujourd'hui qualifient d'illusion scientiste et qu'on voit dans tous les domaines. Même le cœur humain peut être l'objet d'une prothèse. On a l'impression que la médecine peut tout faire pour l'homme. Je suis obligé de dire qu'on a une impression aujourd'hui, depuis quelques semaines, bien moindre, de toute puissance de la médecine. La deuxième cause, c'est que cette nouvelle approche de la médecine qui s'est réellement développée sur la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, cette nouvelle approche de la médecine et qui, à mon avis, ne va pas fortement reculer aujourd'hui, elle va simplement être altérée par le regard que l'on porte sur l'impossibilité de combattre de façon efficace et rapide le virus actuel, mais très probablement la robotisation, L'essor des machines, l'intelligence artificielle vont reprendre leur mouvement et vont contribuer à laisser croire à la toute-puissance de la médecine. Mais bref, donc, disais-je, cette nouvelle approche de la médecine se conjugue avec un deuxième facteur, une deuxième cause, c'est l'essor considérable de l'état-providence. L'état-providence, c'est cet état qui prend soin de nous, qui nous prend en charge. On trouve à son origine l'essor de la sécurité sociale. On sait qu'il a gagné en importance sous l'influence des droits fondamentaux, sous l'influence de l'idée que l'État doit veiller au respect de certains droits fondamentaux et parmi ceux-là, un droit à la santé. Et il est évident que on considère aujourd'hui de plus en plus, en tout cas en France, pas aux États-Unis si j'ai bien compris, que l'État doit prendre en charge le domaine de la santé et que les produits de santé eux-mêmes doivent être garantis par l'État et que l'État doit pouvoir éviter non seulement que l'individu ne puisse pas être soigné, les soins relèvent au fond du devoir de l'État et on voit bien ce que l'on peut reprocher aujourd'hui à la puissance publique par rapport à la crise sanitaire actuelle. Et de la même manière, on considère également que doivent être mis sur le marché des produits qui permettent à l'individu de ne pas tomber malade. Je pense à la vaccination. Et là encore, nous constatons combien la crise actuelle vient participer au débat sur le besoin de présence de l'État et la capacité de l'État à venir protéger les individus. C'est parce que il y a un très fort essor de l'État-providence qu'il y a eu sur la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle une multiplication des fonds d'indemnisation, un essor de la solidarité nationale et des fonds qui vont servir aussi en matière médicale, victimes du sida, victimes du Mediator, régime des infections nosocomiales dans la loi du 4 mars 2002 qui évoque là, pour la première fois, la solidarité nationale. Paragraphe 2, pour finir, les manifestations du bouleversement que j'évoque, du fait que la responsabilité médicale est un laboratoire de la responsabilité civile. Je voudrais montrer que on trouve en matière médicale des signes d'évolution qui influent sur tout le droit de la responsabilité civile. J'en donne deux séries d'exemples. Première série d'exemples, grand A, si vous voulez bien, la notion de causalité. On a vu ensemble combien la causalité était complexe. On l'a vu combien elle était complexe dans tous les domaines. On a étudié des théories de la causalité. Équivalence des conditions, causalité adéquate. En matière médicale, la notion de causalité est très difficile à appréhender parce qu'il y a dans le domaine médical, en matière d'accidents médicaux, nécessairement une ignorance de ce qui a pu se passer exactement. Il y a aussi un rôle de la personne humaine, de chaque personne humaine qui subit des soins ou un traitement ou une opération. Et par construction, si je puis dire, il est souvent difficile de déterminer la cause du dommage puisqu'on intervient aussi sur une personne qui a déjà une pathologie en elle. C'est pour ça qu'elle doit être soignée. C'est pour ça qu'elle doit être opérée. Voilà pourquoi souvent on ignore si réellement un traitement a été la cause d'un dommage parce qu'on ne sait pas toujours si ça n'est pas l'état de santé antérieur de la personne qui est la cause réellement de ce qu'elle subit. Et puis, il y a aussi un problème de prédisposition plus générale, de capacité de l'individu à supporter ou non un traitement, à être réceptif, Et ça aussi, ça complique l'appréciation en termes de causalité que l'on peut faire. Il y a ici ce qu'on a appelé un embarras causaliste. Et cet embarras causaliste, il va conduire la jurisprudence à essayer de trouver des manières de traiter la question, de contourner la difficulté liée à l'embarras causaliste. J'en donne deux exemples. Premier exemple, l'essor considérable, et avec cet essor le dévoiement, de la perte de chance. La perte de chance est devenue d'une certaine manière le couteau suisse de notre responsabilité. À telle enseigne que toutes les fois qu'on ignore ce qu'il se serait passé, s'il n'y avait pas eu le traitement, s'il n'y avait pas eu l'opération, on va se servir de la perte de chance pour remédier à cette ignorance, à cette incertitude. Et on peut dire qu'en matière médicale, la perte de chance, il faut le noter. La perte de chance est souvent un remède à l'incertitude sur le lien de causalité. Je peux dire aussi que le développement de l'obligation d'information va aussi servir à remédier d'une certaine manière à l'incertitude sur le lien de causalité entre l'opération et le dommage. Quand on ne sait pas s'il y a eu un manquement à l'obligation de soins, quand on ne sait pas si une opération a été mal faite, alors on se déplace vers l'obligation d'information. Et on va dire que le préjudice subi, ça n'est pas la conséquence d'un manquement à l'obligation de soins. Le médecin a bien soigné, il n'est pas responsable. Mais ça peut être un manquement à une obligation d'information. Et on voit dans un certain nombre d'arrêts le fait que l'obligation d'information est mobilisée, j'allais dire, pour déplacer la difficulté et pour déplacer et pour remédier à l'embarras causaliste que j'ai évoqué. Pareil pour la causalité alternative, troisième illustration de ce jeu, de ces jeux sur la causalité. La causalité alternative, c'est pour remédier à l'incertitude, on se sert de la causalité alternative pour finir par indemniser le patient. On ne sait pas quel est le laboratoire qui a commercialisé le distilbène, vous vous souvenez, qui a causé le préjudice. On sait que c'est le distilbène, on ne sait pas quel laboratoire. Causalité alternative consiste à dire la victime peut agir contre l'un ou l'autre des laboratoires et obtenir indemnisation. Ce seront les laboratoires eux-mêmes, dans le cadre d'actions récursoires, qui devront se débrouiller et remédier ou non à cette incertitude. Je l'ai dit également pour les infections nosocomiales. On sait qu'une personne a contracté une infection nosocomiale, on sait qu'elle a contracté une infection dans un établissement. Elle a fréquenté plusieurs établissements, du coup on ignore lequel de ces établissements est à l'origine de son infection. Qu'à cela ne tienne, causalité alternative. La Cour de cassation va dire et juger. Le patient peut agir contre n'importe lequel des établissements en faisant valoir l'infection nosocomiale. Ce sera aux établissements eux-mêmes de se débrouiller entre eux. Lui, il pourra obtenir indemnisation. J'ajoute quatrième exemple, le recours aux présomptions de causalité. Présomption de causalité que l'on trouve dans un certain nombre d'hypothèses, notamment en matière de contamination par le virus HIV du sida ou dans le cadre de l'hépatite C. Il y a une jurisprudence sur les présomptions de causalité. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que je veux que vous notiez dans ce grand A, ce que je veux que vous notiez, c'est que la responsabilité médicale, parce qu'elle est souvent en prise avec des événements complexes et qu'elle porte souvent sur des accidents et des dommages pour lesquels il est difficile de repérer de façon certaine la cause, eh bien, la responsabilité médicale va inventer des manières de contourner l'embarras causaliste, et c'est en cela que je dis qu'elle sert de laboratoire, de manière plus générale, à la responsabilité civile. Elle permet d'y façonner des méthodes de raisonnement, des techniques plus ou moins artificielles qui permettent l'indemnisation de la victime. Et puis, grand B, on voit aussi cette créativité, si je puis dire, de la responsabilité médicale dans la notion de préjudice. Grand B, la notion de préjudice. Sous l'influence de la responsabilité médicale, la notion de dommage va évoluer. Et il est très clair qu'il y a une psychologisation du dommage, c'est-à-dire une influence croissante de la dimension psychologique dans le dommage moral. Et du coup, on va prendre en compte des dommages qui relèvent de la perception individuelle, du ressenti, on dirait, de l'individu. Deux exemples, le préjudice d'angoisse. J'en ai déjà parlé pour les sondes cardiaques. Vous vous souvenez de cette personne qui portait en elle une sonde cardiaque qui avait déjà prouvé ses défauts puisqu'elle avait atteint un certain nombre de personnes qui la portaient. Mais lui, on a réussi à l'opérer, lui retirer sa sonde cardiaque et lui en mettre une nouvelle sans qu'il ne subisse le défaut de la sonde. Mais la Cour de cassation a dit « mais il y a quand même une angoisse pour ce patient ». Préjudice d'angoisse. Préjudice d'angoisse aussi pour les maladies liées à l'amiante. Bref, l'angoisse va être une cause de dommage et elle va servir de fondement à la réparation de dommages dans des hypothèses où pour autant il n'y a pas de dommage corporel, où la personne n'a pas subi la maladie nécessairement, peut-être elle la subira, peut-être pas, mais le préjudice d'angoisse est détaché du préjudice corporel. Deuxième illustration, le préjudice d'impréparation. Le préjudice d'impréparation, il est rattaché à l'obligation d'information. Dans l'hypothèse où une personne a été mal informée ou pas informée des risques du traitement ou des risques de l'opération, la Cour de cassation a consacré un nouveau préjudice, le préjudice d'impréparation, où elle considère que finalement, l'individu, le patient, a été mal préparé aux conséquences du risque et de la sorte, il n'a pas pu se préparer au risque de l'opération et éventuellement pouvoir les supporter ou les anticiper. Vous en trouverez plusieurs illustrations en jurisprudence. Un arrêt du 3 juin 2010 de la 3e chambre civile, 3 juin 2010. Un arrêt du 12 juillet 2012, où la Cour de cassation évoque un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et au ressentiment éprouvé à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Je vous renvoie également à un arrêt du 23 janvier 2014 et je vous renvoie enfin à un arrêt du 25 janvier 2017. Je dis enfin, mais il y a d'autres arrêts encore qui l'ont suivi, notamment des arrêts du 23 janvier 2019. Et si je synthétise tous ces arrêts, je dirais que, par principe, le manquement à l'obligation d'information cause un préjudice d'impréparation et que ce préjudice existe même si l'opération était inévitable. C'est-à-dire que on ne pourra pas opposer au patient le fait que, peu importe qu'on l'ait bien prévenu, de toute manière, il était obligatoire de l'opérer. Non, par principe, le fait qu'on n'ait pas été informé cause toujours un préjudice d'impréparation. Et dans l'hypothèse où, en plus, il aurait eu la possibilité de refuser l'opération une fois bien informé, ce manquement à l'obligation d'information cause en plus une perte de chance d'éviter le dommage qu'il va subir. Il y a donc dans cette hypothèse un préjudice d'impréparation qui tient au fait que de toute manière on ne l'a pas informé, peu importe qu'il eût pu ou non refuser l'opération. Mais si en plus l'information lui aurait permis de refuser l'opération, il pourra aussi se prévaloir d'une perte de chance d'éviter le dommage. On voit ici que le droit médical conduit à retenir une approche beaucoup plus psychologisante, c'est pas facile à dire, psychologisante du préjudice. Alors il est évident qu'on ne va pas se quitter sans une chanson. J'ai rendu hommage à l'Italie lors du précédent podcast. Le pays le plus endeuillé par la maladie actuellement après l'Italie, c'est l'Espagne. Et la situation les deux derniers jours est mauvaise, très mauvaise. Je voudrais donc également rendre un hommage à nos voisins espagnols. Et pour cela, je vous propose d'écouter une chanson de Luz Casal, une femme magnifique, Luz Casal, qui s'est fait connaître au début des années 90, je crois, en 1992, pour son interprétation du titre Piensami, la bande originale du film Talon aiguille de Pedro Almodovar. Mais ça n'est pas cette chanson que je voudrais vous faire écouter. Je voudrais vous passer Historia de un amor. C'est l'histoire d'un amour, car il n'y en a pas d'autre comme ça, disent les paroles. C'est l'histoire de l'amour et la passion. Je traduis directement ce que va nous chanter Luz Casal. Je voudrais vous quitter sur cette chanson, mais avant ça, vous souhaitez de joyeuses fêtes de Pâques, du repos la semaine prochaine. Et je l'espère, du bonheur en famille et avec ceux que vous aimez.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.